Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h42, vous avez envie de nous parler, 0826-300-300 pour le petit déjeuner politique dans un instant avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Yves de Cardrel. En attendant, on fait un petit tour avec la presse. Et qu'est-ce qui fait parler ce matin avec Benjamin Glaize?
Oui, comme chaque matin, la revue de presse et les journaux au chevet de la jeunesse, hein, Benjamin, ce matin.
Oui, à commencer par Libération qui titre « Les jeunes qui doutent », hommage et référence subtile à Anne Sylvestre, la chanteuse notamment des enfants, désormais mûre pour pleurer, comme le dit Libé. Mais derrière ce titre, c'est bien le portrait d'une jeunesse plus courageuse que râleuse face au Covid, privée de vie sociale et affective, de cours, de job et d'insouciance par le virus. Il se révèle pourtant plus combatif et imaginatif que défaitiste, écrit donc Libération. D'ailleurs, la jeunesse s'affiche également à la une de la Nouvelle République des Pyrénées. La fin justifie les moyens. Fin, FAIM. En 2020, à Tarbes, comme ailleurs, on constate une explosion du nombre d'étudiants ayant bénéficié de la distribution alimentaire, en cause bien sûr la crise sanitaire qui a accru la précarité.
Oui, et puis il y a un sondage qui est assez intéressant. On vous en a parlé tout à l'heure dans le journal de 8h, hein, sur la façon dont les Français comptent fêter Noël. C'est à la une du journal Aujourd'hui en France, Le Parisien.
Oui, un titre en forme de conclusion en l'occurrence. Noël prudent pour les Français, puisque selon un sondage IFOP pour la plateforme médicale Odero, 57% des Français passeront Noël en famille, 10% seuls, et le nombre de personnes qui partiront en vacances est en baisse de 13 points. Enfin, 24% des Français envisagent d'installer une table séparée carrément pour les plus âgés. Parmi les témoignages, on retrouve eh bien celui d'Edwige, 52 ans, qui raconte « D'habitude, on est 40 cette année, on passe à 9, ce sera moins festif. On a bien fait d'en profiter l'année dernière. » C'est ce qu'elle raconte donc ce matin dans Le Parisien.
Oui, à la une également, la vaccination. Les Échos nous expliquent que la montée en charge sera lente.
Oui, et les chiffres donnent le tournis. Une dizaine de millions de doses devraient être livrées en France au premier trimestre 2021. Un grand nombre de Français seront vaccinés, nous dit-on, entre avril et juin. Le gouvernement qui dévoilera sa stratégie vaccinale d'ailleurs demain. Dans ce contexte, faut-il avoir peur de la vitesse? Ça, c'est la question posée à la une de La Montagne ce matin. Les premiers vaccins devraient arriver en France d'ici début janvier. Le résultat d'une course contre la montre de 10 mois entre recherche scientifique et guerre de communication. Face à face, plusieurs laboratoires. Mais alors que les fabricants évoquent des taux d'efficacité dépassant souvent les 90%, seulement 4 Français sur 10 disent être prêts à se faire vacciner. Les chercheurs en appellent donc à la pédagogie.
Oui, et d'ailleurs, je vous renvoie à notre sondage sur la stratégie vaccinale en fait, du gouvernement avec la priorité en direction donc des personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées dans les EHPAD et les personnels soignants. Et pour l'instant, vous êtes, Cécile,
à plus de 80% à dire que non.
Oui, avec beaucoup de commentaires, parce que vous dites que c'est pas complètement au point, bien sûr, et donc vous avez des doutes par rapport à ça.
Aux effets secondaires.
On va poursuivre avec Nicolas Robière, qui est directeur de la publication de la République des Pyrénées. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Avec un sujet très intéressant et tout le monde se pose en fait la question, qui sont vraiment les malades du Covid, et surtout ceux qui sont les plus touchés, et vous avez tenté de dresser un portrait robot de ces malades du Covid dans la région.
Voilà, c'est ça. On commence à avoir du recul, évidemment, depuis entre la première et la deuxième vague, et Santé publique France, régulièrement, en fait, tous les samedis, publie des chiffres très précis sur les hospitalisés, les patients en réanimation, les personnes décédées depuis le début de la pandémie, en fait. Et on a voulu se pencher sur ces chiffres. Alors, on s'est limité à la Nouvelle-Aquitaine, qui est notre région, mais ce sont des chiffres, finalement, qui se retrouvent un peu partout. Et il s'avère qu'ils d'après les chiffres que livre Santé publique France, que ce soit parmi les hospitalisés, les patients en réanimation et particulièrement eux, mais aussi les personnes décédées, ce sont des hommes qui sont touchés.
Oui.
55% d'hommes pour les personnes décédées, 71% pour les patients en réanimation sont des hommes. La plupart ont plus de 65 ans, 60 à 65 ans, et pour ceux qui sont décédés, et d'ailleurs pour tous les patients qui soient hospitalisés, la plupart ont également une comorbidité. On connaît ce mot, ça fait partie des mots qu'on a appris avec la pandémie.
C'est vrai.
Donc tous présentent une comorbidité. Ça, ce sont les chiffres en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des chiffres qui sont arrêtés au 24 novembre, puisqu'on les a recueillis samedi. On a fait notre dossier data dans le week-end. En revanche, en fait, Santé publique France publie tous ces chiffres régulièrement, mais prend une semaine pour les donner. Et en général, c'est la semaine précédente quand ils les livrent. Donc, ça sera intéressant de revenir là-dessus. En tout cas, ce que nous montre l'enquête également, c'est que dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que lors de la première vague, il y avait eu moins de décès 2020 qu'en 2019. C'était assez frappant. Ce qui veut dire que le département n'avait pas été touché à l'époque. En revanche, sur la seconde, on le savait, on l'a vu, on a le taux d'incidence le plus important de Nouvelle-Aquitaine. Là, on voit que le nombre de décès est supérieur à 2019 et à 2018. On voit en fait l'effet Covid, véritablement, on l'a vu au cours du mois de novembre écoulé dans le département.
Oui, non, bah, c'est vrai. Bah, il s'est étendu à la faveur de l'été et de la rentrée en automne dans toute la France, alors qu'avant, il était très limité.
Exactement, c'était très limité, région parisienne, vous le savez, le Grand Est. Ouais. Le Sud, en tout cas le Sud-Ouest, avait été épargné. Ouais. Il le reste, pas les Pyrénées-Atlantiques, et je pense que, effectivement, les vacances, l'arrivée massive de gens au Pays Basque cet été, ont fait que la pandémie s'est véritablement installée dans le département à la fin de l'été, au début de l'automne, et la seconde vague nous le montre avec ces chiffres.
Oui. Vous parlez des vacances, Nicolas Robière. On va démarrer notre sujet du petit déjeuner de l'actualité avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, de Cardrel sur ce sujet, puisque Emmanuel Macron veut empêcher les Français de skier à l'étranger à Noël, notamment. Alors, dans les Pyrénées...
Nous, on a vu ça, évidemment, on regarde ça avec attention. On a vu que c'était une petite phrase à la sortie d'une rencontre avec, je crois, le Premier ministre belge. Évidemment qu'on va regarder ça avec attention. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens dans les Pyrénées savent que si les stations françaises sont fermées, ils pourront aller en Espagne pour skier. Alors vous savez qu'en Espagne, l'Espagne ne s'est pas encore tout à fait prononcée. Elle a dit « nous, on est prêts à ouvrir les stations ». On a par exemple en Béarn, de l'autre côté du col du Portalet, vraiment à 500 mètres de la frontière, vous pouvez y aller à pied, la station de Formigal, qui est une des plus grosses stations espagnoles, avec Baqueira, qui est côté catalan. Et évidemment, les Béarnais regardent du côté de Formigal en se disant, si les stations sont fermées en France, on peut aller à Formigal. Alors, l'Espagne n'a pas encore dit officiellement si elle laissait ouvrir les stations ou pas. En revanche, ce qu'elle a envisagé, c'est des tests PCR. En gros, demander des tests pour les étrangers qui viendraient en Espagne, que ce soit pour les skier ou pour autre chose, à l'occasion des vacances. Donc évidemment, on regarde ça avec attention, sachant que le président, je crois, a dit qu'il ferait des contrôles aux frontières. Alors évidemment, ça c'est des choses qu'on regarde. Ce qui est étonnant et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que côté français, les gestionnaires de stations et je crois le maire des villages de montagne ou des stations de montagne, je ne sais plus exactement, de l'association des stations de montagne, lui, il trouve ça plutôt intéressant. Alors bon, on regarde, on attend, il faut voir qu'hier soir, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, lui, il a dit, vous pourrez toujours aller dans les stations de ski nordique. Bon, alors, les skieurs que nous sommes, évidemment, en Béarn, attendent les décisions, regardent qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que c'est le moment de se mettre au ski de rando. Vous savez, c'est ce ski où vous n'avez pas besoin de remontée mécanique.
Oui, absolument. Merci, en tout cas. Merci, mais c'est... bon, on verra. En tout cas, c'est un bon débat. Et Elisabeth Lévy, merci Nicolas Robière, donc c'est La République des Pyrénées, directeur de la publication. Elisabeth Lévy, vous êtes avec nous comme Arlette Chabot et Yves de Cardrel, et puis les auditeurs au 0826 300 300. Elisabeth, vous trouviez ça un peu cocasse, cette idée d'Emmanuel Macron, justement, d'empêcher les Français de skier à l'étranger?
Un peu cocasse, mais tout de même parfaitement tubuesque. Enfin, écoutez...
Oui. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas du bon sens, quand même, derrière ça, aussi?
Du bon sens?
Oui. Attendez...
Excusez-moi, on n'a pas la même idée du bon sens, parce que... de nous dire, en gros, nous, on a décidé de fermer nos stations. Déjà, c'est une décision qui me paraît éminemment contestable.
Oui, mais bon, y en a d'autres qui vous disent, oui, mais attendez...
D'accord, mais enfin... Oui. Ok, très bien, mais c'est pas parce que vous allez donc, en gros, comme vous ne pouvez pas l'imposer au reste de l'Europe, et heureusement, en plus, maintenant, vous allez ajouter un interdit. C'est-à-dire, c'est vraiment une logique soviétique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On veut fermer les petits commerçants, ce qui était maintenant, tout le monde reconnaît que c'était une ânerie totale, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaye, ce qu'on n'arrive pas à faire finalement. On se dit, puisqu'on a fermé les petits commerçants, on va interdire Amazon. Non mais, je croyais que le président était libéral. Les bras m'en tombent. Alors en plus, excusez-moi, mais quoi, ça va être la brigade des moufles? C'est complètement... Moi, ça me paraît cocasse, oui, mais si vous voulez, complètement... on est vraiment dans l'absurdistan tant dénoncé, pardon.
Oui, bon, c'est vrai.
Et ça m'a donné furieusement envie, si vous voulez, de me dire, puisque c'est comme ça, je vais aller skier en Suisse.
Voilà. Ah bah, pff, bah voilà, c'est ça. Bah, vous, forcément...
Ah non, mais cette idée d'un interdit, si vous voulez.
Non, non, mais donc, je comprends.
Vous,
non,
mais, vous avez mais... le droit d'aller planquer votre fric en Suisse. Non, ça c'est une blague, je sais que ça n'existe plus. Mais attention, vous n'avez pas le droit d'aller skier, mais c'est du foot. Enfin, franchement.
Ouais, ouais, bon. Arlène Chabot c'est... et Yves de Cardrel, un mot sur ce sujet.
Je pense que le président de la République aurait dû rester sur le terrain diplomatique. Oui. Il y a France, Italie, Allemagne qui sont d'accord pour fermer effectivement les stations. L'Espagne, chaque province va décider, hein, c'est pas un gouvernement qui décide de Madrid, c'est la même chose en Suisse, c'est les cantons qui, un à un, vont décider. Alors tout à l'heure, Jean Castex vient de donner une précision, il y aura effectivement des mesures coercitives, c'est-à-dire qu'il y aurait un contrôle aux frontières pour les Français qui essaieraient de franchir la frontière suisse, avec un test et une quarantaine de 7 jours imposés. Alors, quelles conditions précises? Il va falloir que Matignon explique, mais ce serait ça, des mesures contraignantes évoquées par le président.
Ah oui, mais attendez, 7 jours de quarantaine, quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas positif.
Alors, c'est
quoi.
Là, justement, que c'est encore pas précis.
Et puis, les gens qui vont travailler en Suisse?
Eh bien, c'est une bonne question également, mais c'est pour les stations de ski. Donc, on voit que tout ça est quand même dans un flou. Et franchement, à la place du président de la République, moi, je serais resté dans les négociations en cours. Je me serais pas embargué dans la brigade des moufles, comme dirait notre amie Elisabeth.
Oui, alors, il a donné une précision en disant, alors c'était pas pour l'étranger, mais sur les stations de ski, il dit bon, il fait nuit dans les stations de ski à 17h, bah évidemment, on est en plein hiver, etc. Et donc, les jeunes ont tendance à se retrouver très nombreux dans des appartements, etc., dans des endroits, et c'est là où il y a un risque de contamination.
Ça,
c'est ce que disent aussi les médecins.
Heures, hein. Il fait nuit à Paris aussi,
partout à 17h.
Non, 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 bien sûr. Mais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais
en période de vacances, vous pouvez... on se retrouve.
Ben oui, ben bien sûr. Autre, si non, mais envie. Vous pouvez vous retrouver évidemment plus chez vous, mais peut-être un petit peu moins, comme au ski avec beaucoup de copains, etc. C'est ça aussi.
Patrick, vous êtes un non, mais Elisabeth, avocat du diable.
Non, ben bien sûr. Moi, je, diable, ben, bien là, sûr. Moi, je pose toutes
là,
les questions.
Ça ne marche. Non, mais là, ça ne marche pas.
Non, mais Elisabeth. Quand vous allez vous faire du ski, vous y allez avec des amis, des copains, etc. Et vous vous retrouvez donc à 17h, 18h dans un petit appartement où donc il n'y a pas forcément beaucoup de place
Patrick,
et vous pouvez vous contaminer.
Écoutez, vous
je dis ça, mais...
Grand appartement pour
vous
Elisabeth.
Ne pouvez pas mettre un policier, vous pouvez pas mettre un policier même en Suisse, vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chacun. Enfin,
ah bah non, mais ça se fait en Chine. Ça se fait en Chine, oui.
Mais comment allez-vous
contrôler? Ça se fait en Chine. Ça se fait en Chine. Ça se fait en Chine.
Ah bah voilà, c'est ça l'idéal de Emmanuel Macron, le libéral.
Ah bah non, mais je sais pas, moi.
C'est la Chine. Ouais. Non mais écoutez, enfin, je sais pas, j'attends. Non mais franchement, je ne vois pas comment, je ne vois pas comment déjà ils peuvent l'appliquer. Mmh. Comment on va savoir si je vais voir ma grand-mère en Suisse ou si je vais skier? Ouais. Enfin, c'est complètement absurde.
Bon, vous avez
que vous allez poster les photos sur Facebook, c'est tout.
Yves de Cardrel.
Ah bah bien sûr, vous avez raison, c'est si.
Yves de Cardrel.
Non, j'ai pas grand-chose à rajouter à toutes ces critiques tout à fait fondées de surcroît, comme l'a dit Arlette, sur l'intervention d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Ça doit rester, surtout quand c'est aussi absurde, ça doit rester du domaine du chef du gouvernement et bon, qui nous a habitués à aller de mesures absurdes en mesures de plus en plus absurdes, donc qui reste dans son registre, et puis que le président de la République reste dans un domaine purement diplomatique. Il y a effectivement une concertation actuellement diplomatique avec l'ensemble des pays limitrophes, voire l'ensemble des pays européens. C'est effectivement compliqué, comme l'a dit Arlette, avec l'Espagne, parce que l'Espagne est un pays fédéral, on l'oublie trop souvent, et que la province d'Aragon, qui est voisine du Béarn, décidera elle-même de ce qu'elle fait, sans en référer à Madrid. Donc voilà, pour le reste, je trouve ça complètement stupide, cette
absurde,
cette brigade.
Absurde,
cette
nous habitons en absurdistan.
Depuis 6 mois, on vit avec Noc, donc chaque bien portant est un malade qui s'ignore, et puis maintenant, on vit avec Ubu. Donc voilà, on est passé de Knok à Ubu, je ne suis pas sûr que ce soit un très grand progrès pour la France.
Non, on les cumule, Yves, mais ce qui est quand même intéressant, si vous voulez, c'est qu'en Europe, on est totalement incapable d'empêcher, par exemple, le dumping fiscal. Il y a des paradis fiscaux en Europe, le Luxembourg, l'Irlande, bon, et on ne peut rien faire. Hein, ça, on ne peut rien faire. Mais là, on prétend, si vous voulez, tout d'un coup, la concurrence est insupportable, une concurrence déloyale serait insupportable entre stations de ski. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Yves, sur l'idée de l'Europe que ça révèle, mais c'est quand même assez étonnant.
Non, mais je pense que c'est même pas au niveau de la concurrence. C'est juste un petit sucre d'orge de consolation à donner aux maires de Courchevel et de Méribel et d'autres communes, d'autres stations de ski.
Bien sûr. Oui.
Voilà. C'est juste ça.
Bon, on en reparlera demain parce que les élus de montagne vont venir à Paris, donc ce sera l'un des grands sujets aussi. Dans un instant, on va continuer autour de la sécurité globale. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire aussi par ailleurs, tous les deux qui sont un peu des poids lourds, un petit peu encombrants évidemment pour le président de la République, mais en même temps ils sont incontournables pour eux, pour lui, comme le disait Arlette Chabot ce matin. On va revenir sur cette question et puis l'article 24 qui vous fait toujours réagir au 0826 300 300. Et puis ensuite,
et peut-être pour la vaccination parce que ça fait beaucoup parler. Hein.
Oui, et ensuite, tout à l'heure, à 9h15, notre rendez-vous, hein, Cécile.
Oui, notre rendez-vous avec le professeur Nicolas Franck. On parlera du Covid et de la détresse psychologique. C'est le titre de son livre aux éditions Odile Jacob. Vous pourrez bien entendu nous appeler, vous aussi, 0826 300 300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h06, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. À vos appels, comme tous les matins, vous le savez, vous pouvez nous parler, 0826 300 300, et Mathieu qui nous appelle de Paris ce matin. Bonjour Mathieu.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Alors Mathieu, oui, vous voulez réagir sur l'article 24, je disais, hein, il y a toujours Arlette Chabot qui est là, Elisabeth Lévy et Éric Revel.
Yves de Cabrel.
Je vais réagir sur l'article 24, parce que je trouve qu'en général, les chroniqueurs et les journalistes, je les trouve très innocents, et je trouve surtout qu'ils feignent l'innocence vis-à-vis de la position de l'État face à la violence policière. En gros, si on fait un peu d'historique, en historique contemporaine, suite à la crise des Gilets jaunes, il y a quand même eu 3000 blessés, 100 graves, 17 éborgnés, 4 mains arrachées, 2 morts. Mmh. Et suite à ça, il y a eu 313 enquêtes IGPN. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont essayé de mettre en place... L'État, je trouve, a utilisé les black box et les policiers dans un espèce de jeu de rôle pour essayer de décrédibiliser un peu le mouvement des Gilets jaunes et les différentes manifestations. Ils ont essayé, par la suite, de mettre la loi Avia en place, qui a heureusement été, débouté par le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, ils nous mettent l'article 24 pour évidemment protéger la police, sachant qu'ils savent très bien que par la suite, suite à la crise sanitaire qu'on a aujourd'hui, il va y avoir des crises sociales dans le pays, avec les retraites et avec tout ça, qui vont être énormes. Et que derrière, ils veulent absolument protéger la police, parce que malgré tout, c'est une sorte de... bras armés, ou en tout cas face aux...
bras de défense aussi, armés ou bras de défense pour eux.
Oui, bras de défense, mais en l'occurrence, face aux manifestations, le jeu de rôle entre les Black Blocs et la police, parce qu'on voit, par exemple, dernièrement, il y a eu Linda Kebab qui a été interrogée, syndicat police qui a été interrogée sur BFM TV, elle a clairement expliqué qu'il y avait un laisser-faire avec les Black Blocs. C'était évident, et que c'était 300 personnes qu'on pouvait évidemment arrêter du jour au lendemain. Et,
que ce soit pendant les manifestations des Gilets jaunes, c'est ça, ou encore le week-end dernier, c'est ce que vous voulez dire, Mathieu?
Bien sûr. Des deux côtés, en fait, ça permet de décrédibiliser les mouvements sociaux, c'est évident.
Ouais. Non mais ça, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, donc c'est vrai. Et puis du coup, Mathieu, c'est Darmanin qui quasiment il joue un peu pas sa peau, mais en tout cas sa position en fait au gouvernement, peut-être avec cette loi. Aujourd'hui, il a du mal à s'en sortir, hein, Arlette. Ouais.
Il est un peu entêté, mais il joue pas sa place. On sait, Emmanuel Macron, non, évidemment, il a du mal. A besoin de lui. Il est un peu en difficulté parce que cet article 24, quoi qu'on en dise, il était mal fichu, quoi. Voilà. Ouais. Donc quand on a les pétitions ou des appels qui sont signés de Valeurs Actuelles jusqu'au Figaro Magazine, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand un texte de loi ou un article d'une loi n'est pas compris, bah c'est simple, il ne faut pas tourner autour du pot et vous dire stop, on le retire. Ce n'est pas le cas. En écoutant l'auditeur, il faut sortir de cette espèce de débat permanent, c'est-à-dire les violences commises par des policiers et les violences contre les policiers. Donc ça, on ne va pas faire le match à celui qui aura le plus de blessés et au débordement. Il y a une piste importante, c'est à propos effectivement de l'inspection générale de la police nationale. On a bien compris que le gouvernement n'a pas l'intention d'en faire un organisme indépendant comme au Royaume-Uni. Ça, c'est dommage parce que ça enlèverait toute suspicion.
Ouais, comme le disait Mathieu, oui, c'est vrai.
Il y aura peut-être une personnalité indépendante, dit le Premier ministre, ça ressemble à être une concession énorme. Ça ne l'est pas. Ce serait un moyen déjà de rétablir la confiance. C'est dans l'intérêt de tout le monde, d'ailleurs, les policiers comme des Français, l'opinion, ce serait de créer effectivement un organisme indépendant pour sanctionner quand il le faut, clairement, les policiers quand ils méritent de l'être.
Oui, Elisabeth, d'abord.
Alors, est-ce qu'il va falloir créer aussi une magistrature indépendante pour juger les magistrats quand on doit les juger? Enfin, non. Il me semble... Bon, mais pourquoi pas? Je dis simplement, je n'ai pas le sentiment que l'IGPN, si vous voulez, soit si laxiste. Et moi, je voudrais tout de même dire à notre cher Mathieu,
oui.
Si vous voulez, deux choses. La première, c'est que c'est bien gentil de nous expliquer que les violences ont été commises par 300 personnes, mais c'est faux, parce que pendant un an, on a eu des violences, et si ça avait été seulement 300 personnes, les mêmes, on s'en serait rendu compte. Bah non, pendant les manifestations des Gilets jaunes, je suis désolé, l'idée de nous dire d'un côté, il y avait les gentils Gilets jaunes qui manifestaient pacifiquement, et de l'autre, les méchants Black Bloc, excusez-moi, là, pour le coup,
il y a eu quand même, effectivement, beaucoup de Black Bloc. Ça, c'est incontestable. Ça a été dit, ça a été reconnu, en fait.
Pendant, écoutez, moi j'y suis allé, beaucoup de manifestations, je suis navré de vous le dire, mais non, vous ne pouvez certainement pas dire que pendant toute l'année où ça s'est déroulé, c'était pas des Black Blocs le jour où le Fouquet s'est brûlé, c'était pas, non.
Non, alors là, c'était autre chose.
Mais bon, si vous voulez, et la deuxième chose, moi j'aimerais quand même que Mathieu se mette à la place d'un policier.
Oui, oui.
Si vous voulez, parce que qu'est-ce que c'est la vie d'un policier aujourd'hui? C'est d'aller prendre des coups soit dans les manifs, soit dans les cités. C'est tout de même... Non, il ne s'agit certainement pas de faire de...
Non, mais je pense que Mathieu est encore avec nous et je pense qu'il n'est pas... Mathieu n'est plus... Mathieu, il n'est pas forcément contre les policiers, je pense, Mathieu. Hein.
Mathieu. Si je peux me permettre d'intervenir, Elisabeth, je ne suis pas du tout contre les policiers parce que dans cette série d'événements, avec les Gilets jaunes, il y a eu autant de blessés, il y a eu beaucoup de blessés chez la police et en même temps chez les Gilets jaunes. Je suis contre l'utilisation de ce jeu de rôle qui est mis en place par, entre guillemets, le gouvernement, qui affronte les Black Blocs et la police, qui fait que les manifestations dégénèrent. Si les manifestations chez les Gilets jaunes ont dégénéré et s'il y a eu autant de violence, c'est qu'à un moment donné, ils sont pris dans une espèce de tourbillon d'échaînement général.
Et c'est ça qui crédibilise
les mouvements et qui fait qu'à un moment donné, les gens ne vont plus manifester parce qu'ils ont peur.
Non, mais attendez, attendez.
Ça, c'est vrai. Courte phrase, Elisabeth.
Mathieu, il n'y a pas une manifestation qui se déroule aujourd'hui sans violence. Et l'idée, on utilise, si vous voulez, les Black Blocs, pardon, mais le maintien de l'ordre est aussi une nécessité. Je crois que vous méconnaissez peut-être la dose de confusion, d'incompétence peut-être, ou en tous les cas, de mauvaise gestion peut-être technique.
Oui,
mais je ne crois pas à un complot consistant à nous dire on veut utiliser les policiers contre les uns ou les autres. Bah oui, il faut maintenir l'ordre pendant les manifestations, demander aux commerçants ce qu'ils en pensent.
Oui, c'est vrai.
Ah, mais je suis bien d'accord pour maintenir l'ordre. Je vous dis... Pour moi, il y a une espèce d'organisation autour de tout ça. Ils excitent, en fait, l'affrontement fait que ça excite la violence.
C'est vrai. Et ce que vous disiez, et puis ça a conduit certains à tomber, en fait, dans la violence, alors qu'ils ne le souhaitaient pas, forcément. Merci, en tout cas, Elisabeth Lévy, Arlette Chabot, Yves de Cardrel. On n'a pas eu le temps de parler de Bruno Le Maire. On en reparlera. Et bien sûr, on a parlé de Gérald Darmanin. Merci, Mathieu. Dans un instant, on poursuit, en fait, notre petit déjeuner d'actualité jusqu'à 10h. Avant 10h, on retrouvera fera d'ailleurs Jacques Pessis pour rendre hommage à Anne Sylvestre qui est décédée en fait hier, bien sûr. Et c'est tout un pan en fait de certains, d'éducation notamment de certains. Mais d'ici là, on va parler de détresse psychologique. Et vous allez voir avec des choses en fait terriblement intéressantes et malheureusement assez difficiles, bien sûr, avec ce livre de Nicolas Franck. Et puis également un député de La République En Marche qui sera avec nous parce qu'il vient de mener en fait une enquête et un rapport sur les suicides dans l'agriculture, touchant les agriculteurs et notamment les 40-50 ans, avec un taux de surmortalité. Il nous expliquera pourquoi dans un instant.
Ne bougez pas, il est 9h15.